au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
J'ai des attaques à 3-4 fois par semaine, hein. Des bêtes mortes, des bêtes blessées. On ne peut pas continuer comme ça, c'est impossible. Hein. S'ils veulent nous éliminer les bergers, qu'ils nous le disent, hein, terminé. Puis on y tient aux bêtes. Laissez manger nos moutons à des prédateurs. Ça fait 3 mois que je crie au secours. Personne n'est venu me voir.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La controverse est violente. Depuis que le gouvernement a publié en février dernier son nouveau plan national d'action sur le loup, la presse se fait l'écho, notamment du côté des quotidiens régionaux, de l'antagonisme brutal qui oppose à nouveau, dans les parties du territoire concerné, les éleveurs et les avocats d'une biodiversité préservée ou reconstituée. Le retour organisé du loup dans diverses zones montagnardes, que les sensibilités écologistes saluent avec ferveur, est voué à exaspérer les bergers parce qu'il entraîne des dommages sensibles parmi les troupeaux de moutons. Il n'y aurait aujourd'hui qu'environ 400 loups en France. On nous dit qu'il en faudrait 500 pour que l'espèce soit durablement viable. À quoi les éleveurs opposent la longue liste éprouvée par eux comme insupportable de leurs moutons égorgés. Voilà bien un remarquable concentré des contradictions auxquelles notre époque est confrontée. Mais voici aussi une belle occasion de revenir sur la figure du loup à travers les âges, du loup en face de l'homme, qui a porté sur lui un regard très changeant. Ce regard est passé, selon les époques, de la curiosité à l'effroi, de la haine au respect, du rejet absolu à une fascination quasiment affectueuse. La littérature n'a pas cessé de se saisir de cet animal toujours ambivalent. Le christianisme en a fait longuement l'objet de ses imprécations, tandis que dans l'Antiquité, la prodigieuse histoire de Rome a pris naissance sous les auspices généreux de la Louve qui a sauvé les fondateurs Rémus et Romulus. Mon invité ce matin est Michel Pastoureau. Familier de notre émission, il l'a souvent éclairé par son talent rare de conteur. Il vient de publier un livre remarqué sur le sujet. Je vais donc vous faire profiter de sa science, une science nourrie d'une curiosité qui se déploie dans toutes les directions du temps et de l'espace. Et avant lui, Maurice Genevoix, en 1972.
J'ai entendu des loups, mais j'ai dû les chercher très loin. Ni en Lituanie, ni en Europe, mais au Canada, par exemple. Dans les grandes forêts de l'Est canadien, j'ai entendu la nuit sous la tente hurler des troupes de loups. Et je vous assure que c'est assez saisissant. C'était très lointain, mais on avait l'impression, enfin, que c'était une sorte de voix de la nuit même, de la nuit, enfin, sans âge, de la nuit éternelle. C'était extraordinaire. Et puis alors, autre chose, cela avait évoqué en moi des souvenirs, et c'est là que je rejoins ma notion du loup, c'est que beaucoup plus que ces souvenirs réels, beaucoup plus que ces souvenirs, disons, de carnage ou d'égorgement de brebis, nous avons eu longtemps une vieille servante. Eh bien, sa mère, devenue aveugle et très vieille, m'a raconté des histoires de loups. Ces gamines du Val-de-Loire ou de Sologne étaient bergères, très très petites, très jeunes, à 10 ans, à 12 ans. Et elles avaient la hantise du loup, au moment des avants, par exemple, du temps des brouillards. Eh bien, elles en avaient la terreur, parce que le loup sortait du brouillard comme un fantôme. On entendait un trépignement de menus sabots, et puis un grand cri, un glapissement souvent du labri qui avait été égorgé par le loup, plutôt éventré, car le loup lui ouvrait le ventre et étirait ses tripes. Et alors, ces pauvres gosses rentraient avec cette fois une autre terreur, celle du maître, car elles étaient rouées de coups. Et vraiment, c'est une chose extrêmement saisissante. Le loup, pour moi, c'est vraiment mes contes d'enfance. C'est le chaperon rouge, c'est le roman de Renard. C'est une espèce d'être mythique qui personnifie en quelque sorte le mal sur la terre. Enfin, vous voyez, la malédiction avec un côté satanique. Et je crois que les sensibilités, disons, de mes contemporains, beaucoup plus que par la présence d'un loup en voie de disparition, si vous voulez, comme le loup de Seine-et-Marne aujourd'hui, eh bien, était vraiment formé, sensibilisé à ce loup, personnage des contes, personnage mythique, enfin, depuis Perrault.
Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Décidément, avec Maurice Genevoix, qui va entrer bientôt au Panthéon, c'est aussi un homme de radio qu'on va saluer.
Un homme de radio et aussi un homme de la campagne, sa Sologne qui lui était si chère et la présence des bêtes sauvages pas très loin dans les forêts de Sologne.
Il m'a semblé que ce propos nous donnait un éventail assez large des questions que nous allons avoir à évoquer dans les relations entre l'homme et le loup. L'histoire des relations entre l'homme et le loup est marquée par beaucoup de changements. Si on commence par les débuts, c'est-à-dire l'art pariétal, une relative absence, et puis ensuite la Bible, et puis ensuite l'Antiquité.
Oui, c'est ce qui frappe dans les documents les plus anciens qui nous sont parvenus, images et plus tard textes, le loup est absent ou très peu fréquent. Il émerge en fait dans les mythologies antiques, grecques, romaines, germano-scandinaves, celtes, slaves sans doute, et c'est une bête très féroce, très cruelle, très dangereuse, mais plutôt pour les troupeaux que pour les êtres humains pendant assez longtemps. Toute l'histoire culturelle du loup, elle est liée à la peur du loup, la peur véritable qui est présente à certaines époques.
Et qui est présente dans la citation de Maurice Genevoix.
Voilà, mais il y a des époques où cette peur est moins forte, en quelque sorte. Ça va, ça vient. Pour les Grecs et les Romains, le loup est un animal dangereux pour le bétail, mais pas vraiment pour les humains. Et puis, pendant le haut Moyen-Âge, il devient très dangereux, la peur s'accentue. Il faut dire que tout va mal. L'Empire romain s'est écroulé, la forêt regagne du terrain, la vie dans les campagnes est très dangereuse.
Ne courons pas la poste et restons un instant dans l'Antiquité gréco-romaine, car le loup y a une certaine place, plus que dans la Bible.
Plus que dans la Bible, oui, et notamment dans les légendes liées aux mythologies. Le loup, c'est l'animal qui a à voir avec le déguisement et la métamorphose. Ce livre fondateur de la culture occidentale, que constituent les métamorphoses d'Ovide, compte un assez grand nombre de métamorphoses. La première qu'il raconte, c'est celle d'un homme changé en loup, le roi d'Arcadie, Lycaon, qui avait servi à Zeus au cours d'un banquet de la chair d'un nourrisson, ce qui a provoqué la colère du roi des dieux, qui aussitôt l'a changé en bête sauvage, en loup, avec interdiction de manger de la chair humaine. C'est assez significatif que la première de toutes les métamorphoses fait passer de l'être humain vers le loup.
J'observe que Zeus a également changé en louve son amante, Leto, après qu'une fois de plus, Héra, sa femme, a marqué sa jalousie.
Voilà, Zeus avait mis Leto enceinte, elle va accoucher de deux des principales divinités du panthéon grec, Apollon et sa sœur jumelle Artémis, colère d'Héra, et pour échapper à la colère de son épouse légitime, Zeus a changé Leto et ses enfants en louve et en louveteau. Ils ont fui vers le pays qui correspond au sud de l'Anatolie, la Lycie, ce qui fait que l'adjectif lycien sera assez souvent associé à Apollon dans différents cultes. Et là-bas, la légende nous dit qu'ils ont été tous les trois protégés par des loups. Donc il y a un lien très fort entre Apollon et le loup, qui est un de ses attributs, et Artémis aussi, qui est la déesse des bêtes sauvages, la déesse de la lune, donc partiellement du loup.
Je pense à la fameuse pièce de Diderot, « Est-il bon, est-il méchant ?» Est-il bon, est-il méchant, ce loup, cela dépend beaucoup des périodes. La louve de Rémus et Romulus est restée évidemment un animal très bien considéré à Rome.
C'est la bonne louve, oui, bien sûr, elle est liée à la fondation de Rome en 753, selon la tradition. L'histoire vaut la peine d'être racontée. Les descendants d'aînés avaient fondé la ville d'Albe. Régnait sur Albe un personnage nommé Numitor, qui avait pour fille une vestale, donc elle ne pouvait pas hériter, elle ne pouvait pas se marier, et donc le frère de Numitor espérait succéder à son frère aîné. Malheureusement, Rhea Silva, la vestale, a été mise enceinte par le dieu Mars, elle a accouché de jumeaux, ça a changé tout. Donc le méchant oncle a d'abord tué son frère et a jeté les deux nouveau-nés, les jumeaux, dans un panier sur les eaux du Tibre qui étaient en crue, espérant qu'ils allaient se noyer.
C'était une demi-mesure, c'était imprudent de s'en tenir là.
Voilà, il ne voulait pas agir lui-même directement, il a confié aux eaux du fleuve le soin de tuer les deux jumeaux, mais le fleuve a eu pitié des jeunes enfants, il a fait échouer le panier sur une rive, au bord du mont Palatin, près d'une grotte, et là, une louve a recueilli les deux jumeaux, les a nourris, les a élevés dans un premier temps. Un grand aigle a apporté de la nourriture, puis un berger, Faustulus, en a fait ses enfants adoptifs qui ont grandi comme cela. D'où d'ailleurs, dans l'emblématique romaine, le choix et de la louve et de l'aigle comme emblème animalier dans la très longue durée.
On trouve encore le loup sur la colonne de Trajan, dans le beau livre que vous nous avez donné qui s'appelle « Le loup, une histoire culturelle ». Vous reproduisez notamment la colonne dont je parle.
Oui, et ça souligne l'ambiguïté de cet animal, comme d'ailleurs tous les animaux dans la symbolique et dans l'emblématique. Ils ont leurs bons et leurs mauvais aspects. Donc la louve romaine, évidemment, elle est quasi divinisée. C'est la bonne mère, c'est la louve exemplaire. Et ce loup qu'on voit sur la colonne Trajane, c'est une sorte d'enseigne du peuple dace, vaincu par Trajan au cours d'une de ses guerres. Et donc c'est un emblème d'ennemi du peuple romain. C'est l'idée chez les païens de ces époques-là de s'investir des forces des animaux sauvages avant de partir au combat. Donc sur les enseignes, sur les bannières, sur les boucliers, on voit des têtes d'animaux très sauvages et notamment ce loup qui ressemble un peu à un dragon.
C'est progressivement que le loup va paraître de plus en plus redoutable, de plus en plus dangereux, qui va être affecté, je dirais, d'un coefficient très très négatif. Ça va durer. Une chanson, si vous voulez bien, La légende du loup, 1896, chantée par Bérard dans les années 1920, musique et paroles de Rousseau et Willems.
Petits enfants, écoutez ma prière. Petits enfants, perdus dans la forêt, écoutez donc la voix de votre père qui vous appelle. Désespérés, inquiets, petits enfants, videz notre chaumière, répondez-moi, vous n'êtes pas perdus, mais restant sourds à toutes ces prières, les deux petits ne sont pas revenus. Et depuis ce jour-là, le pauvre bûcheron lança tous les échos, ayant perdu la raison. J'ai peur des loups.
Michel Pastoureau, à Rome, on voyait encore l'ambivalence, notamment lors des fêtes, les Lupercales. Et tout cela va progressivement disparaître. Les Lupercales, rappelez-nous.
Oui, ce sont des fêtes très importantes dans le calendrier romain qui se passent au milieu du mois de février. Elles ont un double but. D'une part, célébrer la louve qui a sauvé Romulus et Rémus, qui a été quasi divinisée, des Alupa. Et puis, ce sont aussi des fêtes de la fertilité, de la fécondité, avec des rituels un peu étonnants qui consistent pour les prêtres des Lupercales à parcourir Rome en courant, armés de lanières en peau de bouc ou de chèvre et à frapper toutes les femmes stériles pour qu'elles deviennent fécondes sur leur passage. Ça dégénère un peu sous l'Empire romain. Un pape finira par y mettre fin. Mais ça montre quand même une certaine admiration et un loup bénéfique, un loup fertile, un loup procréateur. Ça va disparaître pendant le Haut Moyen-Âge. Le christianisme va partir en guerre contre le loup. Il faut dire que les conditions ont changé. Après la chute de l'Empire romain, la vie dans les campagnes devient difficile, voire dangereuse. La forêt et la friche regagnent du terrain. Donc les loups s'approchent davantage des villages, des habitations. On a peur du loup. On a beaucoup peur du loup. Et peut-être sont d'autres loups que les loups des bords de la Méditerranée, des loups du Nord, des loups peut-être enragés. En tout cas, jusqu'à l'an 1000, il y a une forte peur du loup. Et c'est là que naît le cortège d'adjectifs que les textes médiévaux ont associé à cet animal qui est sauvage, cruel, mortifère, rusé, lubrique, vorace, extrêmement dangereux et finalement totalement diabolique.
On a comme souvent tort de voir le Moyen-Âge, qui est si long, comme une unité, notamment quant au sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'histoire du loup. Il y a, en fait, on pourrait dire qu'il y a deux Moyen-Âge.
Deux Moyen-Âge, peut-être même presque trois. Donc cette peur du loup est là pendant le Haut Moyen-Âge. Et puis au Moyen-Âge central, après l'an 1000, quand tout va mieux, que le climat devient favorable, on est dans une période 11e, 12e, 13e siècle d'expansion économique et démographique. La forêt recule, les défrichements vont bon train, les bêtes sauvages ne sont plus si proches des humains. Donc cette peur du loup, sans disparaître, se fait beaucoup moins forte. Elle ne réapparaîtra qu'à la fin du Moyen-Âge. Et alors c'est au Moyen-Âge central, par exemple, que sont rédigées les différentes branches du roman de Renard, fin 12e, début du 13e siècle, qui mettent en scène un loup complètement ridicule, Isengrin, une bête sauvage, mais à qui tous les autres animaux jouent des tours, spécialement le goupil. Il est trompé, berné, battu, tonsuré. Bon, c'est un loup qui ne fait plus peur, et c'est assez révélateur de l'époque.
Encore que, il me semble qu'on a longtemps dit que c'était un roman populaire, mais plus récemment, les spécialistes ont considéré que c'était en fait réservé à une élite, le roman de Renard.
Fait de la littérature savante, et même parfois très très savante, sous des airs comme ça, parfois d'ailleurs assez grossiers, voire rustiques, pas du tout, c'est très très étudié. Il y a d'ailleurs des avant-textes en latin du roman de Renard, et pour l'historien des animaux, c'est un véritable laboratoire. En tout cas, il nous donne une image de loup qui ne fait plus peur. Cette peur du loup va renaître plus tard, à la fin du Moyen-Âge, au 15e siècle, lorsque tout va de nouveau très mal, le climat s'est dégradé, les épidémies et les famines sont revenues, tout le monde a faim, y compris les bêtes sauvages, qui s'approchent non seulement des villages mais des villes. Les loups entrent dans Paris en 1421, une année extrêmement sombre. Et donc cette peur du loup qui reparaît à la fin du Moyen-Âge, elle va durer jusqu'en plein 19e siècle. Donc elle est plutôt le propre de l'époque moderne que de l'époque médiévale classique, en quelque sorte, que de l'époque féodale.
Vous liez ça aux grandes peurs, en somme, plus générales du second Moyen-Âge, et en même temps, le XIIIe siècle est un siècle lumineux.
C'est un siècle lumineux, c'est un siècle d'expansion, c'est un siècle où l'espérance de vie est assez haute. Il faut rappeler qu'en France, et comme partout en Europe occidentale, on vit plus longtemps au XIIIe siècle qu'au XVIIe siècle. Le grand siècle sombre, où les populations européennes sont très malheureuses, c'est le grand siècle, c'est le XVIIe siècle, ce n'est pas le XIIIe siècle. Donc, le loup fait moins peur, on a confiance dans la vie, et cette confiance va aller déclinant. La cause première, c'est le climat qui se dégrade vraiment beaucoup au XIVe siècle. Et cette dégradation va durer jusqu'en plein XVIIIe siècle, pourrait-on dire.
Au XIIIe siècle, on voit prospérer ces bestiaires, notamment le bestiaire d'amour de Richard de Fournival. Et là, le loup a encore une figure très, très présentable.
Oui, c'est un des plus beaux textes de la littérature médiévale, le bestiaire d'amour de Richard de Fournival, un érudit, un lettré, qui avait une bibliothèque personnelle d'ailleurs, qui constitue le noyau, vraiment le noyau le plus ancien de l'actuelle bibliothèque de la Sorbonne, ça n'est pas rien. Et il a écrit ce bestiaire d'un type particulier, où il donne des conseils de stratégie amoureuse, de stratégie courtoise, en prenant l'exemple des animaux.
Casuistique courtoise,
disons. Casuistique courtoise, voilà. Et alors, il convoque le loup à plusieurs reprises, mais notamment il nous explique, en s'appuyant sur une tradition qu'on trouve déjà chez Pline et chez des auteurs antiques, si on rencontre un loup, si le loup voit l'homme ou la femme en premier, l'homme et la femme seront paralysés et dévorés par le loup. Si c'est le contraire, si le loup est vu le premier, c'est lui-même qui va avoir peur et s'enfuir. Alors il donne le même conseil pour la stratégie amoureuse. Il ne faut pas se déclarer en premier à la femme aimée, sinon on va échouer dans sa quête amoureuse. Si c'est l'inverse, on a quelque chance. Il rappelle son exemple, parce qu'il se plaint tout le temps dans ce bestiaire. Malheureusement, il s'est déclaré le premier, donc la dame ne lui a pas donné son amour.
J'ai été incapable de patienter, de m'abstenir, de vous révéler le fond de mon cœur avant de connaître quoi que ce soit de vos propres sentiments. Vous vous êtes dérobé à moi et vous m'avez refusé votre amour. Il n'a pas assez considéré le loup. Là encore, quand le loup ne regarde pas le premier l'homme, c'est
voilà.
Mieux pour l'homme.
C'est un texte magnifique, évidemment c'est de la casuistique courtoise, mais fait par un très très grand érudit qui écrit une langue absolument magnifique. En tout cas, le loup est bien présent dans les bestiaires et les encyclopédies du Moyen-Âge central, qui s'appuient sur les traditions antérieures pour en faire une bête vraiment, non pas ambivalente, mais qui a beaucoup plus de mauvais aspects que de bons aspects. Le seul bon aspect qu'on reconnaît au loup, c'est plutôt la louve qui est une bonne mère, souvenir peut-être de la louve romaine. Et puis, les loups, en général, ont une vie familiale, disent les auteurs, clanique, diraient nos zoologues d'aujourd'hui, bien organisée et qui s'entraident les uns les autres.
On éprouve l'impression que l'Église s'efforce à ce moment-là de dompter la bête et que c'est à ce moment-là que cette métaphore qui est souvent le loup devient un être de chair et de sang. Et on peut se demander pourquoi. Il y a diverses raisons à cela.
Oui, ça commence assez tôt. Pendant le Haut Moyen-Âge, l'Église part en guerre contre le loup, comme elle est partie en guerre contre l'ours, et elle utilise différentes stratégies pour l'éliminer. Notamment sur le plan symbolique, mais sur le plan physique, elle organise des battues, exterminer le plus grand nombre de loups. Sur le plan symbolique, elle le range dans le bestiaire du diable, un bestiaire assez foisonnant, où le loup, comme tous les animaux qui voient la nuit, comme tous les nocturnes, occupe une place de choix, avec des histoires du diable qui se déguise en loup, etc. Et puis surtout, la géographie raconte des histoires où le saint, c'est-à-dire l'homme de Dieu, envoyé par Dieu, se montre plus fort que la bête sauvage redoutable. C'est des histoires de saints qui se font obéir par un loup, par exemple, dans ma chère Bretagne, Saint Hervé, qui est un saint aveugle, qui est guidé par un chien, arrive un loup qui mange le chien, et bien le saint oblige le loup à remplacer le chien qui l'a mangé, ou bien l'histoire très célèbre du loup de Gubbio.
Saint François d'Assise.
Saint François d'Assise, à la frontière de la Toscane, et de l'Ombrie, un loup terrible terrorisait la ville de Gubbio. Saint François arrive dans la région et il parle à la bête sauvage, il s'adresse à elle comme une créature chrétienne, il l'appelle frère loup, lui demande de ne plus terroriser la région. Les habitants de la ville vont te nourrir, dit-il, et le loup finit par obéir, devient la mascotte de Gubbio, vit très longtemps. Donc l'intervention de la spiritualité franciscaine, pourrait-on dire, a dompté la bête sauvage.
Il faut aussi faire leur place au fameux loup-garou, car le loup a une place dans la sorcellerie telle qu'elle est vécue à l'époque, dans la lutte de l'Église contre les sorciers.
Ça va être une histoire de longue durée, celle des loups-garous, des hommes et des femmes qui, certaines nuits, soit chaque semaine, soit à certains moments de l'année, en période de pleine lune ou bien autour du solstice d'hiver, quittent leur aspect humain pour devenir lupins, un aspect de loup, et commettre des choses épouvantables, des crimes, des maléfices de toute nature, se comporter de manière diabolique. On les appelle des garous, l'étymologie du mot n'est pas extrêmement claire, et selon les cas, soit ces garous ont été victimes d'un maléfice, ça n'est pas de leur faute s'ils deviennent des animaux nocturnes très très dangereux, soit c'est héréditaire, ils avaient un ancêtre qui était déjà garou, soit c'est eux-mêmes qui ont fait pacte avec le diable et qui volontairement se transforment en loup-garou.
Alors c'est le moment de citer un texte fameux de Marie de France. C'est un auteur, on ne sait pas grand-chose, une femme de haut rang, d'origine française, vivant en Angleterre et qui a publié un texte, un lait, Elaï, très célèbre, qui raconte la métamorphose d'un gentilhomme. Le texte remonte aux années 1160-1170. En voici un extrait. Et puis Michel Pastoureau, si vous voulez bien, vous nous raconterez ensuite la fin de l'histoire.
En Bretagne, demeurait un baron. Ses merveilles, comme je l'ai entendu louanger. C'était un bon et beau chevalier qui se comportait noblement. Il avait l'affection de son seigneur et l'amitié de tous ses voisins. Il épousa une femme de très grand prix et de très beau visage. Il l'aimait et elle l'aimait. Mais une chose ennuyait fort la dame. Chaque semaine, il disparaissait pendant 3 jours entiers et elle ne savait ce qu'il devenait ni où il allait. Nul des siens n'en savait rien non plus.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
Un matin, comme il était de retour, joyeux et gai, elle lui dit « Sire, beau doux ami, il est une chose que je vous demanderais bien volontiers si j'osais. Mais je crains tant votre courroux, rien que je redoute plus au monde. » Quand il l'ouïe, il la tire à lui, la colle et la baise.
Dame, parlez. Il n'est chose dont vous vous enquériez, si je la sais que je ne vous dise.
Par ma foi, me voilà sauvée. Sire, je suis en tel effroi les jours où vous me quittez. Je sens au cœur si grande peine, et j'ai de vous perdre si grande peur que, si je n'en ai hâtif réconfort, il se pourrait que bientôt je meure. Oui, dites-moi où vous allez, où vous êtes, où vous vous tenez. Ma pensée, c'est que vous aimez ailleurs. Et s'il en est ainsi, c'est un péché.
Dame, pour Dieu, tenez-moi quitte. Il m'arrivera malheur si je vous le dis, car cela vous éloignera de m'aimer et me perdra moi-même.
Quand la dame l'entend, elle sent bien qu'il ne gabe ni ne raille. Elle le presse de questions. Elle le caresse tant. Elle le flatte si bien qu'il lui conte son aventure sans lui rien celer.
Dame, je deviens biclavré. Dans cette grande forêt, là-bas, je me mets au plus épais de la futaie et j'y vis de rapines et de proies.
Elle l'écoute, puis lui demande s'il se dépouille ou s'il va vêtu.
Dame, je me mets tout nu.
Où donc, sire, laissez-vous vos habits ?
Cela, dame, je ne le dirai pas, car si je les perdais, je resterais biclavré à jamais. Et mon malheur serait sans recours jusqu'à ce qu'ils me fussent rendus. Aussi, je ne veux pas que la cachette soit sue.
La suite est peu joyeuse, Michel Pastoureau. Il est question d'adultère, mais pas celui qu'on attend, de nez arraché et d'événements assez sinistres.
Oui, biclavré, c'est sans doute un terme dialectal, breton ou angevin, synonyme de loup-garou. Et donc, la dame presse tellement son mari qu'il finit par lui révéler où il cache ses vêtements quand il devient la nuit loup-garou. Et il se trouve que cette dame a un jeune amant, un écuyer de la cour, et donc elle va profiter de ce qu'un jour où son mari est devenu loup-garou pour, avec l'écuyer, aller chercher les vêtements, les cacher, ce qui fait que au petit matin, le loup-garou est obligé de rester loup-garou. Il ne peut plus retrouver sa forme humaine puisque ses vêtements ont été cachés ailleurs que là où il les avait posés.
C'est l'acte le plus cruel possible qu'il pouvait accomplir. L'histoire est un peu misogyne.
Elle est très misogyne, mais c'est assez fréquent dans la littérature médiévale, même si l'amour courtois, par d'autres côtés, encense la femme à une période où peut-être on manquait de femmes démographiquement par rapport aux hommes. C'est une interprétation qui a parfois été donnée. En tout cas, le seigneur reste loup pendant un temps assez long. Un jour, un roi qui chassait le rencontre avec tout son équipage. Le loup ne se montre pas du tout sauvage ni agressif, mais presque affectueux. Le roi décide de l'emmener à sa cour, où il devient une sorte de mascotte, aimé de tout le monde. Et puis, plus tard, arrive à cette cour l'ancienne femme du seigneur avec son amant, le jeune écuyer.
Dont les Blandis avaient réussi à tirer la vérité. Voilà, de la bouche de son mari.
Devant ce couple, le loup, qui était très paisible, devient extrêmement agressif. à tel point que le roi est intrigué, il finit par interroger le couple, les menacer s'ils ne disent pas la vérité, ils avouent leur forfait. Le loup avait sauté au nez de son ancienne femme et lui avait arraché la moitié du nez.
Un tel enseigne que le couple adultère une fois exilé donne naissance à des enfants sans nez.
Des enfants sans nez, voilà, c'est un thème qui revient quelquefois dans les contes médiévaux. Donc on retrouve, grâce aux révélations, les vêtements et le seigneur peut retrouver sa forme initiale. Le couple méchant est exilé, mais pas mis à mort. Et l'histoire finit comme ça. Marie de France ne nous dit pas pourquoi ce seigneur devient loup-garou. On aimerait savoir, et pourquoi, étant loup-garou, il ne commet pas des méfaits et des meurtres comme les autres loups-garous, mais se comporte de manière paisible. Il y a là quelque chose qui est étrange, mais comme c'est un auteur qui est lui-même très étrange, cette femme... Est-ce vraiment une femme qui écrit en anglo-normand dans la seconde moitié du XIIe siècle? En tout cas, elle écrit très bien. Elle nous a laissé des contes qu'on appelle des laits et puis des fables qui sont imités des fables antiques.
C'est ensuite, XVe, XVIe siècle, que le mot « garou » cesse d'être réservé au seul texte littéraire et qu'il apparaît sous la plume des théologiens, des inquisiteurs, des juges, qu'ils soient laïcs ou ecclésiastiques. C'est le moment où l'Europe vit au rythme des sorciers, de leur conspiration supposée contre l'Église et ses fidèles. Le garou, le loup-garou, y est très présent.
Oui, tout à fait. La sorcellerie, contrairement à ce qu'on croit généralement, ça n'est pas tant une affaire médiévale qu'une affaire de l'Europe moderne. Les grands procès de sorcellerie commencent au XVe siècle, mais ils sont abondants au XVIe et au XVIIe siècle, aussi bien dans l'Europe catholique que dans l'Europe protestante.
Les manuels de démonologie sont pour vous des sources importantes?
Voilà, un démonologue de la fin du XVIe siècle, Jean Bodin, est tellement obsédé par les loups-garous qu'il prétend que tous les loups qu'on voit ici ou là, en fait, ce ne sont pas des vrais loups, ce sont des garous, tous sans exception, que le vrai loup n'existe plus. Bref, il y a une obsession pour cette créature étrange, il y a des procès, c'est un moyen pour pas mal d'hommes ou de femmes de régler leur compte avec des ennemis, la cupidité est parfois là derrière pour se débarrasser d'un vieux mari ou d'une épouse volage. Donc on a beaucoup de procès en sorcellerie et on nous raconte que la nuit, pour aller au sabbat, les sorcières chevauchent des loups, aussi des balais, mais parfois des loups, et que c'est un animal qui est la vedette du sabbat, le sabbat étant une sorte de messe inversée, se situant certaines nuits dans les carrefours, voire dans une clairière au cœur de la forêt.
Elle porte même des jarretières en vessie de loup, ce qui est une idée assez étrange.
Oui, elles entretiennent des rapports étroits avec les loups, pour voyager, pour la métamorphose et les différentes parties du loup, anatomiques, mais aussi ses humeurs, son urine, son sperme, sa salive, servent pour créer des poisons ou des maléfices de toutes sortes. Bref, le loup est omniprésent dans les superstitions liées à la sorcellerie. On a la chance d'avoir en France un curé ingénieux de la fin du XVIIe siècle, l'abbé Thiers, qui dans sa paroisse, puis dans les paroisses voisines, a recenser les superstitions paysannes, puis a entretenu un réseau avec d'autres curés dans d'autres diocèses. Il a rassemblé toutes sortes de superstitions. Il a eu des continuateurs au XVIIIe siècle et on s'aperçoit que les deux tiers, sinon les trois quarts de ces superstitions en milieu rural concernent les animaux et le loup est la vedette.
Parenthèse, ce Jean Bodin que vous évoquez, c'est le même que le célèbre auteur qui écrit sur l'État, sur l'équilibre des pouvoirs, etc., qui a tant marqué la pensée politique de ces années-là?
Exactement. C'est le même qui, d'un côté, se montre une sorte de créateur de l'Europe moderne dans ses conceptions de l'État, et de l'autre, croit au loup-garou et démonologue et perpétue des traditions qui remontent très en amont. On a cette contradiction à la fin du XVIe siècle qui n'est pas si rare, finalement.
Et qui peut-être se prolonger même au XVIIe, où on voit le loup trouver une position assez ambivalente à nouveau. Est-il bon, est-il méchant? C'est le monde des fables, par exemple, le monde de La Fontaine, et puis c'est le monde de Charles Perrault, et bientôt Grimm, au tournant du XVIIe et du XVIIIe.
Oui, le loup est un des animaux vedettes et de la fable et des contes. Il y a quelques vedettes dans la fable, le lion, le singe, le renard surtout, le rat, l'ours, le loup en fait partie, et il se montre souvent extrêmement cruel, comme dans la fable Le loup et l'agneau, qui est déjà présente dans les fables attribuées à Ésope, puis imitée par d'autres auteurs.
Le loup et la cigogne aussi, où il n'est pas extrêmement chevaleresque à l'égard de celle qui lui a enlevé l'os qui lui obstruait le tube digestif.
Voilà, il est toujours négatif dans les fables, dans Le loup et l'agneau, ça finit très mal. L'agneau est dévoré par le loup, qu'il a accusé de choses tout à fait injustes que l'agneau n'avait pas faites, mais ça ne fait rien. Comme dit La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure.
Il est peu valorisé par La Fontaine, où il y a chez La Fontaine 125 animaux différents, 125 qui sont évoqués. Le loup, il y a une place, en somme, limitée en dépit des souvenirs scolaires que nous avons.
Oui, les deux vedettes sont le lion et le renard, qui forment souvent couple. Mais le loup est dans le peloton de tête, pourrait-on dire, du point de vue statistique. Mais c'est vraiment un grand méchant loup que le loup de la fable, qui représente métaphoriquement les méchants. Et à l'époque de La Fontaine, peut-être les seigneurs cruels, cupides, voraces, surtout dans cette période où le climat commence à se détraquer, où la vie dans les campagnes devient très très difficile.
Quelques mots du petit chaperon rouge, Michel Pastoureau, si vous voulez bien. Et on rejoint votre passion pour les couleurs.
Oui, le petit chaperon rouge est peut-être le conte européen le plus anciennement documenté, puisqu'on en a des traces déjà aux environs de l'an 1000, dans les manuscrits sous le titre « La petite robe rouge ». Mais c'est l'histoire d'une petite fille qui rencontre d'abord des jeunes loups, puis un seul loup dans les traditions de la fin du Moyen-Âge, et chez Charles Perrault. Et ce loup est particulièrement redoutable et vorace. Chez Perrault, l'histoire finit très très mal, puisque le loup dévore et la fillette et la grand-mère, et ça s'arrête comme ça. Alors que les frères Grimm, au début du 19e siècle, ont introduit une fin heureuse, un supplément en quelque sorte. Un gentil chasseur tue le loup, ouvre son ventre et la fillette et sa grand-mère sortent vivantes.
Dans certains autres contes, on remplace dans l'estomac ce que le loup a avalé par des pierres, ce qui est assez peu digeste.
Voilà, il a du mal à se relever, il se traîne, ce n'est plus le loup rapide à la course. Pour moi, l'histoire du petit chaperon rouge, évidemment, elle concerne l'animal loup, mais elle concerne aussi les couleurs. On a une triade, petite fille vêtue de rouge, petit pot de beurre blanc et animal noir ou grand-mère noire. Le loup, ça fait un système à trois pôles colorés.
Comment interpréter le rouge?
Alors le rouge, il y a énormément d'hypothèses possibles. Soit c'est l'habitude qu'on avait dans la vie des campagnes européennes d'habiller les enfants de rouge pour les surveiller, pour les repérer simplement, ou pour éloigner les forces du mal, le rouge pouvant être prophylactique dans la longue durée. On a beaucoup de témoignages. Soit c'est jour de fête et la petite fille a mis sa plus belle robe, et une belle robe en milieu paysan, c'est une robe rouge, la teinturerie de village étant performante, surtout dans cette gamme de couleurs. Dans les traditions anciennes, dans les versions anciennes, on nous raconte que l'histoire se passe le jour de la Pentecôte, ce qui pour le culte chrétien est un jour voué au rouge, c'est la fête de l'Esprit-Saint. Parmi les couleurs liturgiques, c'est le rouge sa couleur. Ou bien, comme nous dit la psychanalyse, c'est le rouge de la sexualité.
Vous êtes peu convaincu, ai-je lu, par cette interprétation.
Oui, parce que la psychanalyse, c'est un outil de notre temps, pour notre temps. Alors on peut le projeter un peu dans le passé, faire une psychanalyse de Napoléon, par exemple, mais de Charlemagne, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et alors, l'idée que la sexualité naissante de la petite fille, qui a très envie, au fond, de se retrouver dans le lit avec le loup, ça me semble un peu fragile. Les sexualités précoces enfantines dans les sociétés anciennes sont vraiment associées à la couleur verte et pas à la couleur rouge. Donc, faudrait là, un petit chaperon vert pour donner raison à la psychanalyse.
Le XVIIIe siècle ne voit pas la peur du loup refluer, puisque c'est le temps de la fameuse, de l'illustrissime bête du Gévaudan. Entre 1764 et 1767, elle constitue une sorte de fauve dans les campagnes. C'est de la Lozère actuelle.
Oui, c'est une affaire très bien documenté, qui laisse beaucoup de traces, et une affaire qui reste non élucidée en quelque sorte. On ne sait toujours pas très bien quelle était cette bête. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été avancées.
Avant que vous tâchiez d'en résumer la substance de ces hypothèses. Écoutez cette description qui date de l'époque, de 1764, en octobre 64. C'est une lettre d'un nommé Labarthe, très péremptoire, vous allez voir, il sait très bien ce que c'est que la bête de Gévaudan, qui est adressée au ministre Séguier, et qui est lu ici par Claude Duneton sur France Culture le 4 avril 1995, dans les chemins de la connaissance de Jacques Coget.
La bête a la tête large, très grosse, allongée comme celle d'un veau, et terminée en museau de lévrier. Le poil rougeâtre, rayé de noir sur le dos, le poitrail large et un peu gris, les jambes de devant un peu basses, la queue extrêmement large et touffue et longue. Elle court en bondissant, les oreilles droites. Sa marche au pas est très lente. Elle mange les moutons en l'air, droite sur ses pieds de derrière. Alors elle est assez grande pour attaquer un homme à cheval. Sa taille est plus haute que celle d'un grand loup. Elle est friande du sang, des tétons et de la tête. Elle revient constamment sur le cadavre qu'elle a été forcée d'abandonner. Et si on l'a enlevé, elle lèche la terre s'il y a du sang.
C'est encore un mystère, cette bête, nous dites-vous, Michel Pastoureau. Mais tout de même, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, y compris du côté de l'imagination, des fantasmes?
À l'historien, elle dit beaucoup de choses, et notamment la façon dont les nouvelles vont très très vite dans ces années 1760.
Bien avant les fake news et bien avant Internet.
Voilà, ce qui me frappe le plus pour l'histoire de la presse et de la circulation des informations, c'est un gros dossier, la bête du Gévaudan. Elle attaque en fin d'après-midi une bergère donc dans le sud du Massif central. Le lendemain matin, presque toute l'Europe est au courant par le oui-dire, ensuite par les gazettes et par la gravure. Pour les pays étrangers, d'ailleurs, c'est un moyen de se moquer de la France et de Louis XV et de ses dragons, de ses arquebusiers, de ses louvetiers qui n'arrivent pas à débarrasser cette région de ce fléau. Alors, l'histoire va du mois de juin 1764 au mois de juin 1767, avec environ entre 100 et 120, 130 attaques de la bête et presque autant de morts, si je puis dire, avec des faits très très étranges. La bête attaque presque simultanément en différents endroits. Elle semble dotée d'ubiquité. Elle est presque invincible aux balles qui sont tirées sur elle, comme si elle avait une carapace qui repoussait les balles. On a des descriptions qui sont différentes, voire contradictoires. C'est un animal de grande taille, qui ressemble à un loup, mais qui n'est pas tout à fait un loup. Les contemporains ont imaginé beaucoup de choses. Est-ce que c'est le fruit de l'accouplement d'une louve avec une autre bête sauvage, ou d'un loup, on l'a même dit, avec une femme, avec une hyène, avec des animaux exotiques X ou Y? Est-ce qu'il y a plusieurs bêtes du Gévaudan? Est-ce que, et les contemporains l'ont déjà dit, ce sont un ou plusieurs animaux manipulés par un être humain ou des êtres humains? C'est l'hypothèse que retiennent le plus souvent les chercheurs aujourd'hui. Force est de reconnaître quand même que nous ne savons pas tout et que bien des points d'interrogation demeurent.
Quelles auraient été les finalités de ces êtres humains? C'est peut-être un peu complotiste, votre interprétation.
Alors, il y a des querelles locales, il y a des affaires de sorcellerie. Ce qui est frappant, c'est que ça finit tout d'un coup. Un paysan très étrange, fils d'un autre paysan encore plus étrange, est le tueur du dernier loup qu'on prend pour la bête, un loup gigantesque. Il n'est pas du tout acclamé comme il l'aurait dû, il a très mauvaise réputation. Et quand il apporte le cadavre à Versailles, Louis XV est incommodé par l'odeur, il ne reçoit aucune récompense. On fait disparaître très rapidement ce cadavre. Buffon et Daubenton, qui auraient aimé l'examiner, n'ont pas le temps de le faire. Bien, bref, pour nous, le mystère reste quelque peu entier et alimente naturellement toutes les conjectures et toute une littérature plus ou moins savante, plus ou moins ésotérisante autour de cette affaire, qui, je le répète, est une grosse affaire pour l'histoire de la presse au milieu du XVIIIe siècle, puisque cette bête est présente dans les chroniques, dans les gazettes, son image fantasmée, naturellement, est diffusée par la gravure, et surtout, c'est une sorte de grande peur, déjà en milieu rural, avant les grandes peurs de la fin du siècle. La bête du Gévaudan va d'ailleurs donner naissance à d'autres bêtes qu'on va voir apparaître ici ou là, sous l'Empire, sous la Restauration, et pas seulement en France, d'ailleurs dans les pays voisins également.
Ce 19e siècle est pourtant celui où le loup commence à se revêtir des habits du romantisme. Je pense en particulier à Alfred de Vigny, évidemment, la mort du loup. Rappelons quelques vers, si vous voulez bien, et vous me direz comment on peut interpréter ça du point de vue qui nous occupe ce matin, c'est-à-dire le loup dans l'imaginaire de l'homme à travers les âges. Vous rappelez, le loup est tué par les chiens et Vigny conclut de la sorte. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. À voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah, je l'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Fin de citation.
Oui, c'est la sensibilité romantique et ce sont les idées romantiques issues de Rousseau. C'est pas le mythe du bon sauvage, mais c'est le mythe du bon animal sauvage qui peut être un modèle pour les hommes qui eux-mêmes sont devenus durs, méchants, qui se battent entre eux. C'est une idée forte à la fin du 18e et au début du 19e siècle dans ce courant que nous appelons romantisme, à la fois pour le premier romantisme et encore donc à l'époque de Vigny. En même temps, le loup fait un peu moins peur dans la vie des campagnes. Ça va continuer tout au long du 19e siècle. Il y a des régions et même des pays entiers en Europe où il disparaît. Il disparaît assez tôt d'Angleterre, dans le courant du 17e siècle, d'Écosse et d'Irlande au 18e siècle. Et puis au 19e siècle, dans une partie de l'Allemagne, du Danemark, le loup va disparaître. Donc en même temps, la peur s'atténue. À la fin du 19e siècle, Pasteur met au point le vaccin antirabique et ça contribue à accentuer la non-crainte du loup, en quelque sorte, dans la vie des campagnes. Ce qui est frappant, c'est que quand Pasteur réussit cette performance, c'est déjà un homme couvert d'honneur, c'est un pasteur âgé, et ça s'ajoute déjà à un palmarès très très grand. Donc à partir de ces années, je crois que c'est 1884 ou 85, la mise au point de ce vaccin, le loup devient un peu autre chose qu'une bête sauvage qui fait peur. On le regarde différemment, d'autant que quelques années plus tard, Rudyard Kipling écrit le livre de la jungle et met en scène des loups gentils, pourrait-on dire.
Les singes sont les Français très méchants, très ridicules, mais le loup est au contraire un personnage positif.
Voilà, certains loups en tout cas, qui recueillent Mowgli, qui l'élèvent, qui sont ses compagnons, ses parents nourriciers, ça crée tout un folklore qui va se prolonger dans le scoutisme, et c'est au fond un des premiers témoignages sur l'inversement des systèmes de valeurs et la revalorisation de ce loup qui a été honni pendant des siècles, peut-être des millénaires, et qui va peu à peu, en quelques décennies, devenir un animal sympathique. L'être humain va peut-être prendre conscience qu'il avait trop éradiqué certains animaux sauvages, dont le loup.
Baden-Powell, fondateur du scoutisme, parle en effet de meutes, on évoque les louveteaux.
Voilà, avec des noms, Akela, qui est le chef du clan des loups, Bagheera, c'est la panthère, Ati, c'est l'éléphant, Ka, c'est le serpent python, Balou, c'est l'ours. Donc Mowgli est entouré de toute une faune plutôt sympathique que le dessin animé, bien sûr, de Walt Disney a prolongé à plusieurs reprises. On est dans un autre univers et d'autres valeurs, et le loup en profite, bien sûr, et va devenir une créature beaucoup plus sympathique que précédemment.
On arrive progressivement au gentil loup de la littérature pour la jeunesse. Soit
voilà.
Qu'il soit fripon, mais gentiment fripon, soit qu'il soit secrètement ami des enfants.
C'est le cas, par exemple, au début du XXe siècle, chez Jack London, avec ses différents romans qui s'adressent à la jeunesse, L'appel de la forêt.
Gros-Blanc.
Gros-Blanc, c'est un être qui est entre le chien et le loup, et il n'arrive à trouver sa place ni chez les loups, ni chez les chiens. C'est une belle métaphore de l'entre-deux. Ça vaut aussi pour les humains. Et puis, la bande dessinée, le dessin animé.
Tex Avery,
qui met en scène dans les années 40, alors un loup très particulier, qui est à la fois sympathique, séducteur, hableur, lubrique, dans une version revisitée du Petit Chaperon Rouge, 1943, si je me souviens bien. Le loup de Tex Avery rencontre la fillette dans une ville, New York, qui est assez inquiétante. Il arrive à connaître l'adresse de la grand-mère et il décide d'y aller avec l'idée de violer et la fillette et la grand-mère, puis de les dévorer. Mais quand il arrive, il tombe sur une grand-mère bien plus lubrique que lui, qui le terrorise. Et donc c'est l'histoire du conte qui est un petit peu inversée, avec pas mal de clins d'œil. C'est dans l'air du temps, finalement, puisque plus tard, on réécrira l'histoire du grand méchant loup et des trois petits cochons. Ça deviendra l'histoire des trois méchants petits cochons et du gentil loup qui est terrorisé par ces petits cochons, ou bien des trois gentils louveteaux et du grand méchant cochon. Donc c'est l'inversion, là encore, de mode de sensibilité et de système de valeurs. Ce sont des procédés assez classiques, mais révélateurs du nouveau statut de cet animal qui peu à peu fait son entrée dans le bestiaire des jouets en pluche. Ce bestiaire se diversifie à partir des années 1960 et le loup y trouve sa place, ce qui était peu pensable quand moi j'étais enfant dans les années 50.
Sur cette permanence de la présence du loup dans l'imaginaire, une des bonnes manières de la vérifier, c'est de faire un inventaire des locutions et des expressions qui font partie encore de la langue courante. Entre chien et loup, avoir une faim de loup, il fait un froid de loup, marcher à pas de loup, marcher à la queue leu-leu.
Marcher à la queue leu-leu, c'est une expression qu'on trouve déjà dans des textes médiévaux. Leu est une des formes graphiques et sonores pour désigner le loup en ancien français, en moyen français.
Se jeter dans la gueule du loup, être connu comme le loup blanc quand on parle du loup, etc.
Oui, l'effet de langue et de lexique accorde une grande place au loup. Il est présent dans les noms de personnes, dans la toponymie. On peut même dire que pour la France et les pays voisins, parmi les animaux, c'est la vedette du bestiaire des noms de lieux. Pas tellement les communes, mais beaucoup les lieux-dits, les hameaux. Il y en a partout dans toutes les régions de France. Le gué du loup, le saut du loup, le rocher du loup, le pas du loup.
Le même Saint-Loup, Saint-Loup.
Saint-Loup, alors c'est un saint, évêque de Troyes, plus ou moins légendaire, et ça fait partie de ces stratégies de l'Église pour éradiquer le culte ou la crainte de bêtes sauvages, donne des noms d'animaux à des saints, plus ou moins fictifs. Il y a Saint-Ours, il y a Saint-Loup, et ça contribue bien sûr à inverser le code, en quelque sorte. Saint-Loup, c'est un saint qui n'est pas seulement vénéré en Champagne, mais très au de là, et ça devient un nom de baptême relativement fréquent.
Alors pour notre 20e siècle, tout récent, certes, le loup évolue du côté du dérisoire ou de l'affectueux. Est-il bon, est-il méchant? Il apparaît plutôt bon, mais il reste qu'il continue d'incarner certaines des barbaries de ce siècle-là, et en particulier dans une fameuse chanson sur laquelle nous allons conclure cette conversation, Michel Pastoureau. Les loups représentent les nazis qui entrent dans Paris, les fascistes, très clairement. C'est cette fameuse chanson « Les loups sont entrés dans Paris » d'Albert Vidali, sur une musique de Louis Bessières. Plutôt que de vous donner l'interprétation célèbre de Régénie, j'ai préféré vous proposer celle de Juliette. C'est une chanson de 1967.
Là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver, volait clon, claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et plus personne n'osait le soir affronter la neige des boulevards. Alors deux loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. Deux loups sont entrés dans Paris, as-tu peur rire? charmante Elvire, deux loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Criveuil. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loups sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans loups sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire maigre à ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cent faire carousse, guiesse et bombance dans ce foutu pays de France, jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Alors les loups sont sortis de Paris, et par ici et par Ivry. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris.
Le loup, est-il bon, est-il méchant? On trouve décidément Michel Pastoureau, c'est ambivalent jusqu'au bout, et aujourd'hui encore dans nos campagnes ou dans nos montagnes.
Oui, et dans les polémiques qui opposent aujourd'hui bergers éleveurs d'un côté et défenseurs de la faune sauvage, écologistes, éthologues, zoologues même de l'autre côté. D'ailleurs, dans ces polémiques, les historiens ont été pris à partie.
Jean-Marc Morisseau, par exemple, qui est un excellent historien de ce sujet, a été un peu bousculé.
Oui, professeur à l'université de Caen, notre collègue Morisseau a été quelque peu remis en question. C'est le grand spécialiste du loup en France sous l'Ancien Régime. Il a publié plusieurs livres soulignant les centaines, voire les milliers d'attaques du loup contre des êtres humains. Et un certain nombre de défenseurs du loup ont dit qu'il se trompait, que les documents d'archives se trompaient, que le loup n'attaque jamais l'être humain. C'est peut-être vrai des loups d'aujourd'hui, mais les loups d'aujourd'hui ne sont pas les loups d'autrefois. La vie dans les campagnes au XXIe siècle n'est pas du tout la même qu'au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Donc, ne projetons pas dans le passé nos savoirs, nos connaissances, nos sensibilités et nos morales d'aujourd'hui, sinon nous tomberons dans le piège de l'anachronisme.
C'est une prescription qui vaut bien au-delà du sujet que nous avons traité aujourd'hui, c'est-à-dire les relations du côté de la réalité et de l'imaginaire entre l'homme et le loup. Votre livre, Michel Pastoureau, sur lequel nous avons fondé principalement cette émission, s'appelle « Le loup, une histoire culturelle ». Il vient de paraître au Seuil en 2018. Vous aimez aussi beaucoup « L'ours », où vous lui avez consacré un autre livre, « Histoire d'un roi déchu », 2007, également au Seuil. Et puis ce « Journal chromatique d'un historien », chez le même éditeur en 2017, « Une couleur ne vient jamais seule ». Je voudrais aussi rendre hommage une nouvelle fois à Jean-Marc Morisseau, avec, entre autres, parmi ses livres récents, celui consacré à notre thème, « L'homme contre le loup, une guerre de 2000 ans » aux éditions Fayard. Vous pourrez, vous le savez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores, parlés ou chantés, que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de la cathédrale de Reims. Reims, une cathédrale et tant de mémoires, parce que l'historien allemand Thomas Gettgens vient de publier un livre très suggestif sur ce sujet. Il sera donc mon invité. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Jordan Fuentes à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.